VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Suludia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a commencé hier des consultations formelles pour la formation du gouvernement.
Ebola en RDC, trois médecins soupçonnés du meurtre du docteur Richard Muzoko, un épidémiologiste de l'OMS, ont été placés en détention.
Au Soudan, les généraux au pouvoir et les leaders du mouvement de contestation sont résolus à faire réussir la transition, assure un responsable américain.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump et la première dame Melania ont visité hier Dayton dans l'Ohio et El Paso au Texas, deux villes où 31 personnes ont été tuées dans des fusillades le week-end dernier.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a entamé hier des consultations formelles en vue de la formation du gouvernement. Le point avec Eddy Issango.
Les délégués des CAP pour le changement, la coalition des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila ont été reçus par les premiers ministres. Ils sont invités à lui proposer trois noms pour chacun des 65 postes prévus dans le prochain gouvernement. Les 10 août, toutes les listes seront centralisées par les premiers ministres qui les soumettra à l'arbitrage du chef de l'État. Fin juillet, les FCC et les CACH avaient signé un accord de gouvernement attribuant au pro-Kabila 42 postes ministériels contre 23 au pro-Tshisekedi. À l'issue des élections du 30 décembre, les FCC avaient gagné la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat, donc c'est taille la part du lion dans la future équipe. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est en voie d'être convoquée pour le 15 août en vue de l'investiture de ces gouvernements plus de 7 mois après les élections.
RDC toujours, la justice congolaise a affirmé hier détenir 3 des 4 médecins congolais accusés d'être impliqués dans l'assassinat le 19 avril d'un épidémiologiste camerounais de l'OMS. Le docteur Richard Valéry Muzoko Kibong a été tué dans une attaque d'hommes armés contre l'hôpital universitaire de Butembo où il présidait une réunion avec les membres de l'équipe de riposte contre Ebola, Jean-Roger Bion.
Ces médecins sont poursuivis pour terrorisme, association de malfaiteurs, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma, procureur militaire de Butembo dans le Nord Kivu. Ils sont accusés d'avoir tenu des réunions en date du 14 avril 2019 pour projeter l'assassinat du docteur Richard Muzoko, épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé, a-t-il ajouté. Il s'agit des docteurs Hippolyte Sangala Kisako, Aurélien Luendo Paluku et Gilbert Kasereka. Un quatrième médecin, le docteur Mundama Witende, est hors du pays selon un de ses confrères. Interrogé par l'AFP, maître Jean-Guélon Kizito Poipo, avocat du docteur Sangala, a confirmé la détention de son client, ajoutant que ce dernier a dit qu'il n'a jamais participé à une telle réunion. Pour sa part, l'Ordre des médecins de Butembo a exprimé son indignation face à l'arrestation de ces médecins et exigé leur mise en liberté provisoire en lançant un ultimatum de 48 heures pour, je cite, leur libération sans condition aucune sous peine d'une grève sèche.
En Gambie, 2 soldats ont été condamnés hier à 3 ans de prison par une cour martiale pour avoir évoqué le renversement du président Adama Barrow. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Les 2 soldats, Suleiman Badji et Lamine Koujabi, ont en outre été chassés de l'armée, selon leurs avocats, qui étudient la possibilité de faire appel. Selon Lamine Sanyang, porte-parole de l'armée gambienne, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 3 ans de prison pour diverses activités criminelles. Parmi ces activités, la création d'un groupe WhatsApp appelé « Les vrais amis » en juillet 2017. Ils sont accusés d'avoir échangé avec d'autres membres de l'armée pour renverser le président Adama Barrow, élu quelques mois auparavant. À l'époque, les 2 militaires se trouvaient au Darfour dans une mission de maintien de la paix et ont été arrêtés à leur retour en Gambie en mars 2018, puis présentés devant la cour martiale de Yundum près de Banjul. Fin mai, 7 soldats gambiens ont été condamnés à 9 ans de prison et un autre à 3 ans pour tentative de coup d'État et mutinerie contre le président Barrow.
Au Soudan, les généraux et les leaders du mouvement de contestation se sont fermement engagés, selon un haut responsable américain, à faire réussir la période de transition pour l'établissement d'un pouvoir civil. Le point avec Eric Manirakiza.
J'achève ma visite après avoir entendu de très fortes promesses d'engagement de la part de tous les gens que j'ai rencontrés, a déclaré David Hale, numéro 3 du département d'État américain, lors d'une conférence de presse hier à Khartoum. Il a eu des entretiens avec le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, des leaders de la contestation et des membres de la société civile. Les dirigeants militaires et meneurs de la contestation ont paraphé dimanche un accord prévoyant l'établissement d'un conseil souverain qui devra mener avec un parlement et un gouvernement la transition pendant un peu plus de 3 ans. L'accord doit être formellement signé le 17 août. Le conseil souverain doit compter 5 militaires et 6 civils qui seront désignés le 18 août, le premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août. Par ailleurs, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé la fourniture de 540 000 tonnes de blé au Soudan pour répondre aux besoins alimentaires de base de la population pendant 3 mois.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est rendu hier dans les 2 villes endeuillées par les fusillades du week-end dernier. Ce fut une journée à la communication savamment orchestrée et au cours de laquelle les manifestants ont été soigneusement tenus à l'écart. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Dans un tweet, une fois sa visite terminée, le président a blâmé les journalistes. Les médias fake news ont fait des heures supplémentaires pour me dénigrer, moi et mes 2 voyages, mais ça n'a pas marché. L'amour, le respect et l'enthousiasme étaient là, visibles de tous. Tout au long de la journée, la presse a eu un accès très restreint à ses déplacements. Son équipe de communication a relayé des photos de lui et de sa femme Melania Trump au chevet des victimes et a invoqué le respect pour les victimes et leurs familles pour justifier la distance imposée aux caméras. À El Paso, au Texas, où un jeune blanc aux motivations racistes a abattu 22 personnes samedi matin avant d'être interpellé, M. Trump n'était pas forcément le bienvenu, lui qui pourfend régulièrement l'invasion des migrants venus d'Amérique centrale. Invasion, un mot utilisé par le tireur d'El Paso dans un manifeste mis en ligne avant son crime. Des centaines de manifestants attendaient le président américain dans un parc de 7 villes à la frontière mexicaine, en brandissant des panneaux barrés, des mentions « Vos mots ont des conséquences ». Le président a pour sa part réaffirmé que les récentes tueries n'avaient rien à voir avec lui et que ceux qui l'accusaient d'attiser la haine raciale aux États-Unis cherchaient à tirer un profit politique de leurs critiques. Des manifestants en colère avaient aussi critiqué sa venue à Dayton, réclamant des contrôles renforcés sur les ventes d'armes à feu. Les manifestants ont brandi des panneaux l'exhortant à s'opposer à la NRA, le puissant lobby des armes qui bloque toute tentative de réguler le marché des armes à feu et d'interdire les fusils d'assaut.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a évoqué la sécurité maritime, l'Iran et le Yémen avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman hier au cours d'un entretien téléphonique. Selon un porte-parole du département d'État, M. Pompeo a discuté des tensions accrues dans la région et du besoin d'une sécurité maritime renforcée afin de promouvoir la liberté de navigation. L'Iran a saisi en moins de mois 3 pétroliers étrangers dans le Golfe, exacerbant les tensions entre Washington et Téhéran.
La Turquie et les États-Unis ont décidé hier, après 3 jours d'intenses négociations, d'établir un centre d'opérations conjointe pour coordonner la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Cette mesure vise à éviter une nouvelle opération militaire turque contre les unités de protection du peuple, une milice kurde qui contrôle des zones du nord de la Syrie et qu'Ankara qualifie de terroriste.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a annulé hier le départ de la délégation qui devait aller dialoguer aujourd'hui et demain à la Barbade avec celle de l'opposition désignée par le président autoproclamé Juan Guaido. M. Maduro proteste ainsi contre les nouvelles sanctions annoncées par l'administration Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La première mine de charbon privé du Botswana, Massama, a produit son premier charbon vendable qui a été exporté en Afrique du Sud et en Namibie. Massama, qui a extrait environ 39 000 tonnes de charbon depuis juillet, veut augmenter sa production à 100 000 tonnes par mois d'ici l'an prochain. La mine devrait contenir 390 millions de tonnes de réserves de charbon. C'est l'une des deux seules mines de charbon en activité dans le Botswana, malgré les énormes ressources du pays, estimées à 212 milliards de tonnes. Le Kenya invite les banques commerciales internationales à souscrire à un prêt syndiqué d'une valeur maximale de 150 milliards de shillings et qui viendra à échéance dans 6 ans. En juin, le ministère kényan des Finances a établi un déficit budgétaire de 5,6% du PIB pour l'exercice 2019-2020, obligeant le pays à emprunter près de 324 milliards de shillings, soit près de la moitié du déficit à des sources extérieures. Terminons cette minute éco avec le Gabon où la société Averda, en charge de la gestion des déchets, annonce l'arrêt temporaire de tous ses services de gestion des déchets à la suite du non-paiement de ses prestations par l'État gabonais pendant 2 ans, publie la Tribune Afrique. Pendant cette période, Averda affirme avoir maintenu ses services et a continué à rémunérer l'ensemble de ses 700 employés, une situation qui s'est répercutée sur sa trésorerie en occasionnant des pertes financières considérables auxquelles la société doit maintenant faire face. Il y a quelques mois, l'État gabonais réclamait la résiliation du contrat d'Averda pour non-respect du cahier des charges.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le club tunisien, l'Espérance de Tunis, déclaré vainqueur de la Ligue des Champions.
Oui, après des heures de réunion de la commission de discipline présidée par le Sud-Africain Raymond Hack, la CAF a déclaré perdante de la finale retour par forfait le club marocain du Wydad Casablanca, donnant ainsi le titre à l'Espérance Tunis au terme d'une longue bataille de procédure. Les Marocains sont sanctionnés pour avoir abandonné le match retour le 31 mai pour protester contre une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Le verdict s'est basé uniquement sur le rapport de l'arbitre Papa Bakary Gassama. Le WAC perd son match retour contre l'Espérance de Tunis à Rades. Il devra aussi payer une amende de 20 000 $ pour abandon de match et une autre de 15 000 $ pour usage de fumigène. Quant à l'Espérance de Tunis, son président Hamdi Medeb écope d'une amende de 20 000 $ à cause de son comportement envers le président de la CAF. Les Tunisiens devront aussi jouer 2 matchs à huis clos.
En RDC, Florent Ibengue a jeté l'éponge.
Oui, l'entraîneur congolais, surnommé coach Android, a annoncé sa démission du poste de sélectionneur des Léopards après une rencontre avec le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari. Plus de détails avec Bagasekura.
Sous la sellette depuis l'élimination des Léopards par Madagascar en 8e de finale de la récente CAN en Égypte, Florent Ibengue vivait ses derniers moments comme sélectionneur de la RDC. Il avait même déclaré que le match face au Barias était peut-être son dernier. Le technicien congolais dit partir sans pression.
Il n'y a aucune pression de ma part. Je le fais volontiers. Je le fais comme c'était prévu. La première réunion il y a 5 ans avec mon staff, je leur ai dit que je n'allais pas rester longtemps. Dès le départ, ils savaient que c'était ma dernière CAN.
En tête des Léopards depuis 2014, Florent Ibengue a terminé 3e de la CAN 2015. Il a aussi été quart de finaliste en 2017 et a remporté le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016. Coach Android, comme on l'appelle, dit toujours être à la disposition du football congolais.
Je reste toujours à la disposition parce que le président m'a proposé aussi d'autres postes. Donc on va regarder ça tranquillement. Le plus important encore une fois, c'est la RDC et que la RDC gagne. Elle est toujours dans mon cœur et le restera toujours.
Florent Ibengue est aussi l'entraîneur de l'AS Vita Club d'après Top Congo FM, notre station partenaire, alors que les Dauphins Noirs livrent un match ce week-end face à l'US Loum au Cameroun. Dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le club de Kinshasa s'est envolé sans son entraîneur principal. Le secrétaire général de V-Club, Patrick Banishai, a nié toute éventualité de rupture entre sa formation sportive et son entraîneur. Il a plutôt évoqué un congé sollicité par Ibengue.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, plus de 30 personnes ont été tuées le week-end dernier dans 2 fusillades au Texas et dans l'Ohio. Ces drames ont relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Les démocrates ont renouvelé leur appel à un renforcement de la législation sur les armes à feu, avec notamment une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes. Mais le président et les républicains mettent en cause les jeux vidéo et la propagation des idéologies de la haine via Internet. Nous allons avons évoqué tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les enquêtes se poursuivent dans la province du Kasaï, où une baleinière a fait naufrage sur la rivière Lukeni. Au moins 11 corps ont été repêchés alors que des dizaines de personnes manquent à l'appel. Le nombre de passagers qui étaient à bord n'est toujours pas connu. Eddie Isango a joint à Tshikapa le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Piem Tutoko.
Le nombre exact n'est pas connu en ce moment parce que il y a des disparus. Le nombre que nous pouvons retenir aujourd'hui officiellement, il est de 11 blessés et plusieurs disparus. Jusque-là, les recherches se poursuivent. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le nombre de personnes qui sont disparues.
Après des accidents, les tout derniers, dont celui du lac au Kivu et Maïndombe, il y a eu sur le plan national des mesures prises.
Normalement, tout a été mis en place pour que les mesures prises dernièrement par le gouvernement soient respectées. Mais il est bien évident que, avec cet accident, on s'est rendu compte que quelques défaillances sont à déplorer. Et c'est pour cette raison que nous avons dépêché un ministre du gouvernement provincial afin d'enquêter et comprendre à quel niveau les failles ont été constatées et que les responsables soient effectivement mis en cause.
En fait, quelles sont les causes justement de ces énièmes accidents?
La baleinière a décidé de naviguer la nuit sans prendre les précautions. Ce sont des soupçons, des explications que nous pouvons avoir. Nous sommes pendant la période de saison sèche, le niveau d'eau baisse et probablement la navigabilité est difficile pendant cette période.
Dans le Maïndombe, c'était ça, navigation nocturne. Qu'est-ce qui est fait justement pour empêcher cela?
Nous avons un véritable problème, un véritable défi à relever sur le respect des conditions de navigabilité, nocturne ou diurne, mais de manière générale. C'est une question qui va relever du défi destiné au gouvernement central. Nous avons nos raisons, nous avons nos questions, nous avons également nos défis que nous pouvons proposer au débat au niveau national. Mais pour l'instant, s'agissant de cet incident, l'explication pourrait être celle que je viens de vous donner.
Au niveau local de la province, qu'est-ce que vous faites pour éviter cela? Dans les Kivu, le président a même donné des gilets de sauvetage et c'était décidé, personne ne pourra plus naviguer si elle ne porte pas de gilets de sauvetage, entre autres.
Avoir les gilets de sauvetage ne signifie pas forcément, même si ça réduit le niveau ou le taux de mortalité ou l'exposition à la mort, le véritable problème, c'est assurer la bonne réglementation et faire respecter la réglementation de la navigation. Il y a lieu de mettre en place une bonne surveillance des conditions de navigation par nos services, les autorités habilitées à réglementer la circulation sur nos lacs ainsi que sur nos cours d'eau, en mettant en place les conditions de contrôle, en rendant efficaces les conditions de contrôle. Je pense que nous pourrons arriver, si pas à endiguer le problème, mais à tout le moins à réduire le plus possible la mortalité sur l'eau.
Dieudonné Piem Tutoko, gouverneur de la province du Kasaï à Tshikapa.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Nigeria, l'arrestation le week-end dernier du leader de Revolution Now, la révolution maintenant, alimente la polémique après une série de manifestations. Les manifestants exigent la fin de l'insécurité, mais les autorités fédérales les qualifient de traîtres. Une affaire qui suscite donc beaucoup de réactions dans le pays. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Omoyele Sowore, candidat malheureux à la présidentielle du 23 février dernier, a publié une vidéo qui a provoqué la colère des autorités fédérales. Dans cette vidéo, le directeur de publication du site d'information Sahara Reporters appelle à une série de manifestations dans tout le pays. Cet appel est perçu autrement par les autorités à Abuja. Ils accusent l'opposant d'avoir appelé au soulèvement, donc à la révolution, pour renverser le gouvernement. Oge Novo Otemu, avocat nigérien, a regardé la vidéo.
In this case, there is a clear call Dans cette affaire, il y a clairement un appel à un soulèvement et non à une manifestation. Il y a une différence entre une manifestation, un appel à manifester pacifiquement et un appel à un soulèvement ou une révolution. L'appel de Sowore, dans ce cas, c'est un soulèvement ou pour mieux dire une révolution avec une intention claire de renverser le gouvernement. C'est cet appel qui crée des problèmes à Sowore.
C'est aussi l'avis de la présidence nigériane qui estime que la coalition pour la révolution de M. Sowore veut tout simplement renverser le gouvernement. Par conséquent, il est arrêté et détenu au département des services de sûreté de l'État. Les manifestations annoncées à travers le pays ont été dispersées au gaz lacrymogène par la police dans plusieurs États du pays. Pour la société civile, les Nigériens ont le droit de manifester et de demander pacifiquement des comptes au gouvernement fédéral. Kolawole Banvo est un militant et consultant indépendant pour le développement.
Les gens ont le droit de manifester, mais nos services de renseignement devraient chercher à savoir si la manifestation serait violente avant d'agir comme ils l'ont fait. En plus, la vérité est qu'il n'y avait pas de violence lorsque les manifestations ont commencé dans plusieurs endroits. C'est la police qui a commencé à lancer des gaz lacrymogènes et autres. Cela indique qu'il n'y avait aucun problème et tout avait été planifié. Seulement, c'est la manière avec laquelle le gouvernement a réagi qui a provoqué l'escalade.
L'opposition nigériane condamne également la répression des manifestations par les forces de sécurité et l'arrestation des Sowore. Yabagi Yusuf Sani, du parti ADP, et ancien candidat à la présidentielle de février 2019.
Je pense que c'est mieux pour le gouvernement de le libérer à moins qu'il dispose d'autres informations contre lui que le public ignore. Les autorités disent qu'il est accusé de trahison, mais c'était une surprise pour moi parce que jamais dans l'histoire de ce pays ou dans d'autres démocraties, une simple manifestation est considérée comme une trahison.
Pour la première fois depuis son arrestation vendredi dernier, Omoyele Sowore a rompu le silence ce mardi en exhortant les Nigériens à descendre massivement dans les rues pour protester contre la mauvaise gouvernance. Il doit comparaître devant un juge jeudi à Abuja et le département des services de sécurité voudrait bien le garder encore pour 90 jours si le juge leur donne le feu vert. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les peuples autochtones veulent davantage de considération et s'insurgent contre la disparition progressive de leur langue. C'est ce qui ressort d'une recherche réalisée par la société civile dans deux régions du pays. Les résultats de cette recherche ont été présentés à Yaoundé à la veille de la Journée internationale des peuples autochtones. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les recherches menées dans une vingtaine de villages du Cameroun sont sans équivoque. L'identité des peuples autochtones est en voie de disparition, notamment dans les régions du sud et de l'est. Les Baka, les Bayili, les Bakula et les Bedan, des peuples autochtones de ces régions, sont concernés par la situation. Ils sont marginalisés selon les résultats de l'étude menée par le RACOPI, le réseau Recherche Action Concertée PICMI. Romuald Ngono, coordonnateur de la recherche.
Lorsqu'on a par exemple un litige qui oppose un autochtone et un Bantou, le litige est géré à la chefferie Bantou. Et là, ça pose un problème. Mais la coutume qui est appliquée dans ce cas-là est la coutume Bantou. Lorsqu'il y a même un litige entre Baka et Baka, la coutume qui est appliquée est la coutume Bantou et la langue qui est utilisée est la langue Bantou. Du simple point de vue moral, on ne peut pas juger quelqu'un avec la langue qu'il ne parle pas.
L'accès à l'éducation est aussi l'un des griefs soulevés par les peuples autochtones du Cameroun. Ceux-ci veulent, par exemple, des enseignements spécifiques en leur langue. Jean Toutoumou est issu du peuple autochtone Baka et conseiller municipal dans la commune de Mintom, dans la région du sud.
Observer, réfléchir, agir. On commence la leçon en langue maternelle. Tu tiens la bouteille, tu demandes aux élèves comment s'appelle cet objet en Baka. quand l'enfant quitte le centre préscolaire, il va à l'école primaire, cet enfant sera le premier à donner son cahier, parce qu'il a déjà travaillé en deux langues, en français, en baccalauréat.
Certes, de telles méthodes d'apprentissage existent au Cameroun, mais elles ne sont pas généralisées dans toutes les écoles que fréquentent les peuples autochtones, qui se plaignent également de leur délocalisation suite au grand projet de développement. Jeanne Biloa, présidente de l'association Bakola, l'un des peuples autochtones du Cameroun.
Mais comme on dit que les peuples autochtones sont les premiers habitants du Cameroun, ils n'ont pas de terre. Nous étions installés en brousse. On a demandé que les peuples autochtones aient de la forêt. Quand au village là, ce n'est pas notre terre. Donc on est obligé de s'adapter et de parler leur patois.
Une dizaine de structures gouvernementales ont assisté à la séance de restitution de la recherche, parmi lesquels le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui lutte contre les mariages forcés, un phénomène décrié par le peuple autochtone. Chantal Hangju, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme et de la famille.
Par rapport au mariage, nous pensons qu'il faille encourager l'éducation non formelle. Si elles n'ont pas pu être à l'école classique, le ministère dispose des centres de promotion de la femme et de la famille qui doivent pouvoir promouvoir la formation.
Les Nations Unies ont en 2010 déclaré l'année 2019 année internationale des langues autochtones. Selon les experts, 95% des langues autochtones pourraient disparaître d'ici 2050, du fait notamment de l'éviction des peuples autochtones de leur terre d'origine. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Pour terminer, le changement climatique va affecter plus sévèrement que prévu beaucoup de pays africains. Selon un nouveau rapport de chercheurs, à cause de la croissance démographique, de plus en plus de personnes seront touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes sur tout le continent au cours des prochaines années. Reportage d'Henry Ridgewell, repris ici par Irénée Herman-Ungbo.
Nous sommes à Farana, un village de la Guinée en Afrique de l'Ouest. C'est la saison des pluies, mais le ciel est clair et il ne pleut pas. Une catastrophe pour des riziculteurs comme Koular Mohamed.
Le changement climatique a provoqué l'absence de pluie. Et donc, il est très difficile pour nous de cultiver. Nous ne pouvons plus faire nos semences de riz, justement à cause du manque de pluie.
Le rapport du Bureau météorologique britannique et de l'Université de Leeds indique dans le même temps que le changement climatique provoqué par la combustion des énergies fossiles entraînera le chaos en Afrique avec des épisodes de sécheresse et d'inondations soudaines. Elizabeth Kendon du Bureau météorologique britannique nous donne plus de précisions sur cette découverte.
Pour la première fois, nous avons utilisé un modèle climatique à très haute résolution comparable à la résolution que nous utilisons habituellement pour les prévisions météorologiques. Ce modèle climatique est donc capable de représenter des processus à petite échelle dans l'atmosphère avec beaucoup plus de réalisme. Les processus à petite échelle sont vraiment importants pour la façon dont les extrêmes climatiques pourraient changer en Afrique.
Les auteurs du rapport avertissent également que des inondations soudaines comme celle en Ouganda l'année dernière et qui ont provoqué la mort des dizaines de personnes deviendront beaucoup plus courantes sur le continent. Elizabeth Kendon.
Nous avons constaté que ce type d'événement qui se déroule généralement tous les 30 ans à l'heure actuelle pourrait être aussi fréquent qu'une fois tous les 3 ou 4 ans. En termes d'extrême humidité et de fortes précipitations, nous constatons des changements sur l'ensemble du continent. En ce qui concerne les sécheresses extrêmes, nous constatons que les régions centrales et occidentales du continent sont touchées.
L'Organisation mondiale de la météorologie a signalé que le mois de juillet de 2019 avait connu des vagues de chaleur records dans le monde entier. Un phénomène qui, selon l'organisation, a réécrit l'histoire du climat dans le monde. Les scientifiques estiment que les populations africaines seront probablement parmi les plus durement touchées par le changement climatique au cours des prochaines décennies, étant moins capables de faire face à ses conséquences.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, plus de 30 personnes ont été tuées le week-end dernier dans deux fusillades au Texas et dans l'Ohio. Ces drames ont relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Les démocrates ont renouvelé leur appel à un renforcement de la législation sur les armes à feu, avec notamment une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes. Mais le président et les républicains mettent en cause les jeux vidéo et la propagation des idéologies de la haine via Internet. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.